Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
11h passées de quelques secondes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et merci en cette fin de matinée de nous rejoindre à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Notez bien désormais le nouvel horaire de votre émission littéraire. C'est donc le samedi à 11h, rediffusion le mardi dans la nuit à 2h du matin pour les noctambules ou celles et ceux qui travaillent de nuit. En tout cas, merci de nous être fidèles. C'est la rentrée de votre magazine culturel et littéraire. Nous allons vous proposer ce matin un entretien avec Colombe Schneck, journaliste et écrivain, que nous avons rencontré à Dijon fin juin dernier, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Elle venait y présenter son dernier roman paru aux éditions Stock et qui a pour titre « Les guerres de mon père ». Mais avant de vous proposer cet entretien, que nous avions d'ailleurs enregistré dans les délicieux jardins du Grand Hôtel de la Cloche à Dijon, je vous invite à écouter une petite pause musicale. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol dessine comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent. Ouais, le vol dessine. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse manquait tant à notre estime, on suit le vol.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Bonsoir Colombe Schneck.
Bonsoir.
Vous venez de faire paraître un nouveau roman aux éditions Stock qui a pour titre « Les guerres de mon père ». Alors c'est un roman qui pourtant parle du destin de vos ancêtres et de votre famille. Alors pourquoi est-il marqué « roman » plutôt que récit?
Parce qu'il y a une part romanesque importante dans ce livre. Je devais remplir des silences. Mon père répétait toujours « on ne parle pas de choses qui fâchent ». C'était un moyen de fuir un passé douloureux. On ne parlait pas. Tout n'est pas dans les archives. Mais moi, je voulais raconter toutes les choses qui passent, toutes les choses qui fâchent. Je voulais rien ne laisser. J'étais assez obstinée dans cette idée d'écrire sur tout. Il manquait beaucoup de choses, et dans les archives, et dans les témoignages que j'ai pu obtenir, il me semble que seule la fiction pouvait me permettre d'écrire sur tout. On dit souvent que l'imagination, c'est une sorte de mentir vrai. Moi, je crois vraiment, j'ai inventé des choses, imaginé des choses, j'ai menti sur certains aspects de la vie de mon père et de ma famille. Et quand après, a posteriori, j'ai pu finalement trouver les documents qui correspondaient à ce que j'avais pu inventer, je me suis rendu compte que ce que j'écrivais était juste. Oui, donc c'est un roman sur l'histoire de ma famille, sur l'histoire de mon père.
Alors, il est aussi question du projet littéraire avec votre oncle. Donc, je ne sais pas si le personnage existe.
Oui, bien sûr.
Et il fait vraiment partie de votre famille.
Oui, Pierre Paché était le petit frère de ma mère. Voilà.
Et donc, Pierre Paché avait lui aussi écrit quelques pages sur votre
même
famille.
Même des livres.
Ouais. Et en fin de compte, vous écrivez, enfin c'est la narratrice qui dit cela dans le roman, je peux continuer à lui parler, c'est-à-dire à parler à mon père, et il m'entend toujours. Et d'ailleurs, un peu plus loin, c'est page 315, puisque lui-même est un grand lecteur, hein, il a deux livres de chevet, hein, c'est Lévi-Strauss, et alors l'autre que je connais un peu moins.
Il y a L'établi de Robert Linhart.
Voilà. Et il est écrit, la littérature nous a sauvés. Alors, la littérature comme, je dirais, rédemption par la lecture et par l'écriture.
Oui, je crois vraiment. Je pense que mon enfance a été sauvée par la lecture. J'étais une enfant qui lisait beaucoup dans une famille où, avec des parents très aimants, très protecteurs, mais qui ne parlaient pas. Et donc mais comme tout enfant, je sentais qu'il y avait quelque chose qui cloche entre guillemets. On est tel de la cloche, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui manquait. Et j'ai cherché dans les livres, il me semble, ce qu'on ne me racontait pas. Je me souviens qu'enfant, par exemple, j'avais été fascinée, j'avais 8 ou 9 ans, par les récits de la Kolyma de Chelomov, qui sont un récit de l'univers concentrationnaire soviétique. C'est pas a priori une lecture pour enfants. Mais je cherchais dans ce livre quelque chose de l'histoire de ma famille. Dans le froid, la faim qu'il décrivait, je sentais que là, je pouvais trouver quelque chose, une réponse à ce que je cherchais.
Alors, votre père, aujourd'hui disparu, est bien né en 1932, c'est-à-dire un an d'ailleurs avant l'accession d'Adolf Hitler au pouvoir. Vous parlez de votre maman, vous parlez aussi de vos grands-parents. Donc, il y a tout de même, on ne sait plus au bout d'un moment ce qui relève de la fiction, ce qui relève de la véritable histoire, du véritable roman familial en fait.
Mais ça n'a aucune importance. Il faut que le lecteur fasse confiance à l'écrivain. Quand j'écris, ma seule règle, c'est d'être sincère. Même quand je mens, quand j'invente, quand j'imagine, je suis sincère dans ce que j'invente. Il faut, et je demande au lecteur d'être en confiance. Je ne vais pas le manipuler, je ne vais pas le manipuler. Si j'invente quelque chose, c'est pour raconter une vérité.
Alors les parents de votre papa, donc vos grands-parents, Paulette et Max, sont nés dans des pays qui n'existent plus aussi. Ça a été pour eux... Ils ont connu l'exil, ils sont devenus français, ils ont enfin existé sur le papier. Quand on couche les êtres sur le papier, on leur donne enfin une véritable existence.
Alors, ils avaient une véritable existence sans moi, une existence forte, sans que j'aie à écrire sur eux. Mais effectivement, ils ne parlaient pas du passé. Les pays qui n'existent plus, dont ils venaient, je pense... par exemple, à la Transylvanie hongroise, cette partie de la Hongrie qui est devenue roumaine après le traité de Trianon, après la Première Guerre mondiale, existe toujours. Il y a toujours une région, la Roumanie, qui s'appelle la Transylvanie, où les habitants parlent toujours hongrois. Mais disons, la communauté juive qui vivait là s'est enfuie. Où a été déporté. C'est Shtetl où on parlait yiddish. où on mangeait du gâteau aux noix, même si c'est un plat qui est, je m'en suis rendu compte, n'était pas typiquement juif, mais un plat national. Tout cela a disparu. Quand je parle de ces pays qui ont disparu, ce sont pas des régions, ce sont des régions qui existent toujours, mais dont les habitants juifs, ces cultures, leur culture de petits villages ashkénazes, leurs recettes de cuisine, tout cela, oui, a disparu.
Alors, Max, votre grand-père, est un personnage hors du commun. On reviendra peut-être sur lui ou vous en dites un mot maintenant ?
Oui, c'était un personnage...
Un très bel homme.
C'est un bel homme, il est blond, aux yeux bleus, visage très fin, assez élégant, c'est ce que je vois sur les photos. Il y a quelques photos de lui. Mon père ne parlait jamais de lui, je savais juste que son père était mort.
Dans des conditions quand même
Mais ça, je l'ai su bien après la mort de mon père. En fait, tout ce que je savais de mon grand-père, c'est qu'après la mort de mon père, je fouille dans son bureau à la recherche de secrets et je trouve un dossier dans lequel il y a un vieux Paris Match qui date de juin 49. Il doit dater de 81, ce Paris Match, avec Lady Di en couverture, donc bien plus récent, dans lequel il y a les bonnes feuilles d'un livre consacré à mon grand-père, à son assassinat, dont on dit qu'il aurait été tué par son amant, qu'il aurait coupé en morceaux. C'est l'homme à la valise, dans la valise sanglante. Sur ce, je me souviens que quand je lis ce Paris Match, je suis à peine surpris. Vous savez, je crois que c'est assez commun quand on découvre un secret. Finalement, on le savait toujours, on l'a toujours su. Mais n'empêche que je mets cette histoire, disons, grand guignolesque, enfin terrifiante, de côté pendant longtemps. Et puis un jour, je suis prête, je vais écrire, je voudrais savoir ce qui s'est passé. Et donc, j'interroge ma grand-mère. Et ma grand-mère me raconte cet homme dont elle est 70 ans après leur rencontre, 40 ans après leur divorce puis sa mort à lui. Toujours très amoureuse, elle en parle, les yeux brillants. C'est un homme un peu louche, on dirait, entre guillemets, un peu comme le père de Patrick Modiano. C'est quelqu'un qui pendant la guerre, trafique des dollars et des marques, qui gagne un peu d'argent, on ne sait pas comment, qui arrive à disparaître des listes de juifs étrangers à rafler, qui passe son temps à disparaître jusqu'à sa mort. Ouais.
Qui a des amitiés douteuses,
oui,
qu'on présente comme homosexuel.
Oui, ça c'est dans la presse de 49, je ne sais pas s'il l'était ou pas, enfin ça a pu... C'est un mauvais héros. Être homosexuel en 49, c'était difficile. C'était à admettre. Je ne sais pas s'il l'était. C'était un type, qui échappait aux normes de l'époque. Et c'est un homme qui, je crois, voulait une sorte de discrétion. Qui n'avait pas de règles, qui avait tout fuir, qui avait tout perdu, et je crois qu'il de ce passé, il a le sentiment qu'on ne peut rien garder. Donc il faut mieux fuir, être en état de fuite permanente en tout cas.
Colombe Schneck, on va marquer une petite pause musicale. On se retrouve dans une poignée de minutes. Je voudrais simplement rappeler aux auditrices et auditeurs de Lyon et de toute la Bourgogne qui nous écoutent. Je rappelle ce très bel événement littéraire qui aura lieu les 22 et 23 septembre prochains. C'est la 11e édition du Salon Livres en Vigne qui a pour invité d'honneur cette année l'académicienne Danielle Salnave, une centaine d'auteurs réunis au milieu du vignoble bourguignon au château du Clos de Vougeot entre Beaune et Dijon. Vous pouvez trouver la liste de tous les écrivains qui seront reçus dans ce salon, je rappelle, les 22 et 23 septembre, en allant consulter le site internet livresenvigne.com. On se retrouve dans une poignée de minutes avec notre invité Colombe Schneck pour son roman « Les guerres de mon père ». Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Radion et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Je suis de bad, bad mood. J'ai le sang qui broie du noir. Noir. J'attends le spleen à redoux. Je peine à rire, je peine à croire. J'ai bien compris qu'il faut.
trop des multitudes de dangers pour m'animer. J'ai bien une idée de comment contrer la fièvre. Pas de point fixe, je suis in Rolling Stone. La la la, la la la. Suis de ceux qui maudit, qui compte plus que ses filles. La la la. Si je dis love, la la la. Suis easy, it works for me. Oh, I need it. La la.
De bad, bad mood. Moi, Pierre qui roule, je cache un blues. Des confettis, je m'en fous. Je suis moody à cran, je suis
mort. J'ai bien saisi qu'il faut des multitudes de cocktails là pour m'apaiser. J'ai bien une idée de comment contre-coller. Rolling Stone. La la la, la la la. Suis de ceux qui maudit, qui compte plus que ses filles. La la la, la la la. Suis de ceux qui maudit, got my need is. La la la.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Suite de Wagon Livre, votre émission littéraire ce matin sur Radion, devant notre micro aujourd'hui, Colombe Schneck pour son dernier roman paru aux éditions Stock, dernier roman qui a pour titre Les guerres de mon père. Alors Colombe Schneck, justement, du passé, il ne faut pourtant pas trop en parler, et vous parlez aussi beaucoup d'héritage. Et il y a dans votre roman un mot qui revient, je suis navré, il est un peu trivial. C'est la merde dont on hérite. Vous parlez de la merde dont on hérite.
La honte, en tout cas, la honte. Quand je pensais à ce très beau livre de Philippe Roth, qui s'appelle Patrimoine, où il parle de l'héritage de son père. Il a nettoyé son père. De la merde s'est incrustée partout dans la salle de bain où son père...
Dans les jointures d'écarlage.
Voilà,
ça,
et qu'il doit les nettoyer avec une brosse à dents. Et il dit finalement, c'est là l'héritage de mon père. Il y a une sorte de honte, de honte à être juif, de honte à avoir survécu, de suspicion permanente qui vous poursuit. Et je crois que c'est là, notre, d'une certaine façon, notre héritage, oui.
Alors, pendant l'occupation, donc, votre père... qui se prénomme Gilbert, petit garçon de 11 ans en 43. Lui, il est placé en Haute-Garonne dans une famille extrêmement accueillante, une famille de gens de gauche et qui va d'ailleurs mener de grandes opérations de résistance, des opérations éclatantes. D'ailleurs, il apprend à pêcher la truite à la main. Bon, a-t-il été heureux? En tout cas, il l'a été plus que celle qui deviendra sa femme, c'est-à-dire Paulette.
Hélène, ma mère, Hélène.
Hélène, pardon. Hélène, elle, en revanche, durant l'hiver 43, donc votre maman, elle est cachée. Alors, elle est isolée de ses parents. Elle est dans un couvent. Et il y a quelque chose de terrible. Alors, encore un homme qui lit ça, mais peut-être que des femmes, ça peut être beaucoup plus émouvant. C'est qu'elle a ses premières règles toute seule, sans comprendre vraiment ce qui lui arrive. Ce qui, d'ailleurs, va lui nuire par la suite dans sa vie amoureuse, si j'ai bien lu le roman.
Oui. Alors, il y a deux choses. Il y a mon père, effectivement, qui, quand il parlait de la guerre, il disait cette chose étonnante. Il disait « J'ai passé les mois les plus heureux et libres de mon enfance pendant la guerre. » Parce qu'effectivement, il avait été caché dans cette famille en Haute-Garonne, une famille de résistants qui avait participé à l'attaque du train de Mazamet en août 44. Une famille où il avait appris à aimer la campagne, lui, ce citadin. Il avait appris à... Il avait mangé des fruits sur les arbres. Il avait appris à pêcher la truite à la main, ce qui est quelque chose de peut-être ici, on sait le faire, mais pour un petit juif de Strasbourg, c'était assez étonnant. Et ma mère, elle, a été effectivement cachée dans un couvent l'hiver 43 à côté de Clermont-Ferrand. La seule chose qu'elle racontait de cette expérience à ses enfants, c'est que elle nous disait, jamais en riant, parce que comme mon père, elle voulait toujours enjoliver l'histoire. Hein, quand on racontait aux enfants, c'était toujours de façon très presque angélique, presque, enfin en tout cas de manière souriante, pour ne pas nous effrayer. Elle disait qu'il y avait des énormes tartines de pain noir et qu'un tout petit peu de confiture au milieu. Donc la guerre était résumée à une grande tartine de pain noir. Ce qui nous effrayait, mais qui n'était pas si grave. En fait, ce qui était plus effrayant, le plus grave, elle n'en parlait pas. Et c'est dans un livre de Pierre Paché, donc de mon oncle, qui s'appelle « Sans amour ». Il parle de ma mère et il raconte qu'à l'âge de 11 ans, effectivement, elle a ses règles pour la première fois cachées dans ce couvent. Et on ne sait pas ce que c'est que les règles. Sa mère ne lui a pas appris. Son père médecin non plus. Et donc, elle ne sait pas si elle va mourir. Elle pense qu'elle va mourir parce que ce sont les premières lois anti-juives. Elle est cachée. Elle ne sait pas si elle va revoir ses parents, si elle-même va survivre à la guerre. Et elle a ses règles sans savoir si c'est elle-même va mourir, si c'est peut-être une maladie grave. Elle en garde une espèce de suspicion pour tout ce qui est lié au sang, au sexe. Moi, j'ai le sentiment qu'elle n'est jamais sortie du couvent dans lequel elle a été cachée enfant. Elle a une crainte effectivement terrifiante de ce qui pourrait ressembler effectivement au sexe, au sang, à la mort. Tout ça est lié.
Et lorsqu'Hélène épouse Gilbert, je crois que Gilbert parle de sa jeune femme qu'il aime beaucoup en parlant des murs du passé. C'est-à-dire qu'elle a été emmurée dans ce couvent, mais quelque part, elle n'a jamais réussi à abattre les murs du passé.
Et oui, je pense qu'elle l'a épousé comme un combat pour tenter de réduire, enfin de supprimer ces murs derrière lesquels elle était cachée. Sans y arriver vraiment, ou peut-être elle y arrivait à un moment et il s'est lassé.
Il croyait beaucoup au pouvoir de la psychanalyse, notamment.
Alors, il y croyait, mais pas pour lui. Donc, il y croyait comme il aimait les nouvelles expériences, comme il aimait comme une aventure intellectuelle. Mais il n'a jamais fait d'analyse, enfin, en tout cas pas à ma connaissance, ni ma mère. Ils sont restés l'un et l'autre enfermés, chacun dans leur passé. Parce que mon père n'était pas non plus, était lui aussi en fuite hein, du passé.
Alors Colombe Schneck, c'est important. Vous avez parlé justement, épouser Hélène offrait un combat à Gilbert, votre père. Et il faut rappeler le titre du roman, hein, « Les guerres de mon père ». Alors, votre papa, vous en parlez plus sur la fin, le début du roman étant consacré aux grands-parents, l'occupation. Et puis, il y a aussi le fait que Gilbert est un homme à femmes. Il aime les femmes. Alors, il a aimé Hélène, mais il regarde un peu ailleurs.
Il a aimé de nombreuses femmes. Et je pense que cette guerre entre lui et les femmes est finalement la dernière guerre qu'il a traversée. Et c'est la seule dans laquelle il a échoué. Il n'a pas trouvé la solution. Disons, la paix aurait été ma mère, la femme qu'il aimait et qu'il a aimé toujours, tout au long de sa vie, qui restait toujours fidèle à lui. milite dans cette guerre, de toujours trouver plus jeune, plus joyeux, sans y arriver vraiment, puisqu'il restait toujours attaché à ma mère. Je crois que lui, les femmes, c'est la dernière guerre, et c'est la guerre qu'il a perdue, la guerre devant laquelle il a échoué. Il est mort du cœur, d'ailleurs. Il est mort de plusieurs crises cardiaques et puis d'un transplant cardiaque qui a échoué.
Et votre oncle, Pierre Pachet et Gilbert, bavardent souvent le sujet des femmes. Comment les garde-t-on? A-t-on le droit d'en aimer une autre? Et il y a cette question avec les femmes, comment fait-on?
Oui, je crois que c'est une dernière question que mon père pose à Pierre, son beau-frère. Et toi, avec les femmes, comment tu fais? Et Pierre, lui, qui a toujours été fidèle à sa femme toute sa vie, ne comprend pas très bien, mais il ne juge pas. Il comprend très bien son beau-frère. Il va d'ailleurs l'aider quand il faut trouver un logement pour retrouver sa maîtresse. Il aide le mari de sa sœur à trouver un lieu. Il ne juge pas, il le protège. Il sait qu'il a besoin peut-être de cet échappatoire aussi pour supporter la vie.
En revanche, quand il lit Claude Lévi-Strauss, c'est par rapport à ce qu'il peut lire sur le mariage dans certaines tribus. Oui. Un mariage ne doit pas durer plus de 10 ans. Et vous, Colomb Schneck, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il est question de la vie sentimentale pourrie de la narratrice dans le roman.
Oui, mon père, donc c'est dans Triste Tropique. Il raconte ces tribus, et j'ai retrouvé bien l'intérêt de mon père là, où les hommes ont plusieurs femmes, plusieurs épouses, de plusieurs âges différents. Je me souviens que mon père me disait, j'étais enfant, il me disait mais un mariage n'aurait pas duré plus de 10 ans. D'ailleurs au Moyen-Âge, les gens mouraient jeunes, donc j'ai longtemps cru ça, j'ai longtemps cru qu'effectivement qu'un mariage ne pouvait pas durer, que la fidélité n'était pas une valeur nécessaire à l'amour, qu'on pouvait ne pas aimer entièrement. J'ai été élevée comme ça, avec cette idée-là. Et j'ai mis longtemps à comprendre que ce n'est pas là que je serais heureuse et qu'elle ne me correspondait pas. Mais ce livre m'a permis aussi de rompre avec mon père. Ma mère, elle aimait de manière entière et fidèle. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre que c'était comme ça que je pouvais être heureuse.
C'est la journaliste et romancière Colombe Schneck qui nous accompagne ce matin dans Wagon Livre sur Radion. Colombe Schneck, dont le dernier ouvrage est disponible en librairie. Il a pour titre « Les guerres de mon père » et il est paru aux éditions Stock. Très bonne fin de matinée à l'écoute de Radion. C'est Wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Thank you. young lady attitude. I got a 90 days visit and I'm filled with guilt from things done and seen. Your water's from a bottle, mine's from a canteen. At night I hear the shots ring, storm my life sleeper. Cause of life seems to get cheaper. Out in the desert with a street sweeper. The war is over, so said the speaker. With the fight suit on, maybe to him I'm just a pawn. So he can advance. Remember when they used to dance? Man, all I wanna do.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Bien sûr, quand on écrit sur ses grands-parents juifs pendant l'occupation en France, oui. Évidemment, il est largement question de l'antisémitisme et de tous ces Français des administrations ou à titre privé qui ont dénoncé, qui ont œuvré pour le régime de Vichy. D'ailleurs, je vous cite Colombe Schneck, « La mémoire des méfaits est aussi essentielle que la mémoire des bonnes actions. » C'est aussi un livre pour rappeler qu'il y a, et c'est une interrogation également, qu'est-ce qui a poussé des gens à faire des listes d'enfants juifs que l'on ramassait? Alors, il est question, hein, il y a cette réflexion sur le verbe « ramasser », un peu comme on ramasse des objets, et qu'on envoyait à la mort. Et vous vous posez la question, vous avez fait des recherches alors sur ces préfets qui étaient au service de Vichy?
Oui, en fait, il y a deux... Dans ce livre, je dirais qu'il y a deux courants. Un premier courant qui était la colère. C'était le premier sentiment que j'ai eu quand j'ai pu lire les archives de Vichy, qui sont maintenant, vous savez, ouvertes au public. Et donc, vous pouvez lire des télégrammes de préfets, de gendarmes qui organisent le ramassage, comme ils disent, hein, ce ne sont plus des êtres humains, de femmes, d'enfants, d'hommes. Et donc, on peut lire très simplement hein, les noms... dans l'établissement des rapports, dans les factures de clôture, dans les factures de notes d'essence pour faire ce ramassage, on peut lire le nom de tous ceux qui ont participé à cette entreprise de destruction. Et donc, quand vous lisez ces noms et que aucun n'a vraiment été puni hein, après la guerre, vous avez un sentiment de colère. Et puis, cette colère a été transformée. Parce qu'en allant en Dordogne, en allant à Périgueux, en allant aussi aux archives nationales, en retrouvant aussi des lettres de ma grand-mère, j'ai compris que si mon père avait été sauvé, comme beaucoup d'enfants juifs français, s'il avait aussi gardé une foi dans l'humanité, il aimait les gens, c'est parce que pendant la guerre, il avait rencontré des hommes et des femmes des enfants qu'il avait cachés et hébergés, des justes, mais qui n'ont jamais été remerciés. Et c'était important pour moi d'aller les retrouver et de pouvoir les remercier un à un. J'en ai retrouvé peu, je n'ai pas retrouvé leur nom à tous, mais j'ai retrouvé par exemple Charles Schmitt, qui est instituteur, qui a gardé tout un petit groupe de garçons juifs pendant la guerre dans son école à Nautron. J'ai retrouvé Thérèse Moreau, qui était couturière et qui a... Il cachait mon père les soirs de rafle. Et c'était important pour moi de montrer, de rappeler qu'en France, beaucoup de gens se sont aussi, ont choisi le bien.
Parce qu'effectivement, c'est aussi une réflexion sur le choix du bon camp. C'est, bon, c'est un peu manichéen, il y a le bien, le mal, la barbarie. Et finalement, vous, votre narratrice se pose la question, pourquoi les préfets, vous donnez leur nom, vous ne les avez pas changés, ce sont de
véritables identités. Oui, c'est les vrais noms, je peux rappeler leur nom.
Maurice Labarthe, René Rivière, Jean Popineau. Oui. Vous posez la question, mais pourquoi ces hommes qui étaient peut-être de très bons papas avec leurs enfants ont envoyé des enfants juifs en camp de déportation? C'est une vraie question, ça. Oui.
Ont arrêté les résistants. Je pense à Jean Popineau, hein, qui a été très actif dans l'arrestation des résistants, qui a demandé à l'aide à la Gestapo pour faire arrêter les résistants et les juifs de sa région à la fin de la guerre. Jean Popineau n'a jamais vraiment été puni. Hein. Il a été mis de côté de la préfecture et puis en 61, il a pu rattraper les aides salaires qu'il n'avait pas reçues.
Il y a ceux qui demandent la Légion d'honneur. qui prétendent en tout cas et qui l'obtiennent en plus.
Oui, Maurice Labarthe a eu la Légion d'honneur en Algérie peu de temps après la guerre. Oui, pourquoi ? J'avais été assez obsédée par cette question. Pourquoi Thérèse Moreau ou Charles Schmitt et d'autres vont faire le bien ? Et d'autres qui ont une bonne éducation, qui sont des grands bourgeois catholiques, qui sont peut-être des bons pères de famille, des bons maris, vont-ils oublier leur humanité, obéir à des lois injustes ? Et je crois qu'il s'agit de une capacité à accepter la solitude, à accepter de penser seul, à perdre ce qu'on a. Les préfets comme Jean Popineau, en désobéissant, avaient beaucoup à perdre. Ils perdaient une carrière, une fonction, un statut social pour se retrouver avec moi. Je crois qu'il s'agit de ça, oui, une capacité à accepter qu'on peut tout perdre et qu'on peut se retrouver seul. Alors. Et c'est ça qui permet, il me semble, de bien se comporter éventuellement dans une situation complexe, disons.
Mais vous aimez ceux qui, justement, sont capables de désobéir. Et un peu plus tard, d'ailleurs, votre père, Gilbert, en lisant ce fameux livre « L'établi », apprend qu'il y a un ouvrier alors qui est d'origine maghrébine,
algérien,
et qui lui refuse d'appliquer les nouveaux horaires qui ont été imposés par la nouvelle direction de l'usine et qui s'en tient aux anciens et qui finalement résiste, quoi, désobéit.
L'établi raconte l'itinéraire, le récit de Robert Linhart, jeune étudiant qui va partir travailler dans une usine Renault. Et disons, qui choisit d'appliquer ses idées, ne pas seulement les pratiquer de manière théorique. Et il rencontre Ali qui, comme lui, refuse. Et Ali, quand Robert Linhart lui apprend qu'il est juif, Ali, on ne donne pas le nom de famille, lui dit « c'est pas possible parce que le juif, c'est le mal ». Et là... Il y a une incompréhension entre eux. Robert Linhart n'arrive pas à lui expliquer que ça n'a rien à voir, qu'on peut être juif et bon. Et pour Ali, non, on est juif, le juif c'est le mal. Il lui raconte qu'enfant en Algérie, dans le village où il vivait, la viande était réservée aux chiens des militaires français. Et pour lui, il en reste là. Le juif, c'est le mal. Et il se quitte sans pouvoir, sans pouvoir se comprendre et sans pouvoir lui expliquer qu'il se méprend.
Et vous parlez aussi de ces Algériens et Marocains qui ont été enrôlés dans la milice française un peu par l'antisémitisme de certains Arabes.
Alors, je ne sais pas si c'est l'antisémitisme. C'est peut-être plutôt la pas du gain. C'est ce qu'on appelle la phalange... comment elle s'appelle ça va phalange arabe, une sorte de phalange arabe qui recrutée par la Gestapo à la fin de la guerre pour seconder
la phalange nord-africaine.
C'est un écrivain de Dordogne qui a fait toute une qui s'appelle Patrice Rolly qui a fait toute une un travail sur cette phalange. En fait, c'est pas l'antisémitisme, c'est plutôt l'appât du gain. Ils ont pas vraiment de religion entre guillemets. Ils sont pas hitlériens, collaborationnistes. Je sais pas comment. Je sais plus parler français. Ils sont bien payés. Ils ont un bel uniforme et donc ils acceptent de seconder la Gestapo pendant quelques mois en Dordogne. Ouais.
Il faut dire aussi tout de même. Je reviens. Aux horreurs de cette occupation, Gilbert, qui aimait beaucoup son oncle Hugo, vous l'écrivez dans le roman, Hugo Rothenberg, qui est fusillé, assassiné à 23 ans sous les yeux de sa propre mère.
Oui, les miliciens. J'ai retrouvé ça dans les archives grâce à Bernard Revirigo, qui est un archiviste de Périgueux, qui a beaucoup travaillé sur la présence, sur l'occupation. Pendant longtemps... ceux qui revenaient, les familles juives, de nombreuses familles juives ont été cachées en Dordogne pendant la guerre et à Périgueux, parce que vous savez que Strasbourg, où vivait une communauté juive importante, a été évacuée entièrement à Périgueux dans son environ en 1939. quand des familles juives revenaient pour dire voilà, j'étais cachée, j'étais là, ou ma famille, on leur disait il n'y a rien, on n'a rien, on n'a rien à vous montrer. On a... Et il y a une quinzaine d'années, Bernard Rivirigo a décidé d'aller chercher dans les archives ce rien. Il a découvert beaucoup de choses, effectivement, il a découvert que tout était là, qu'il suffisait de classer, de ranger, d'aller chercher. Et donc, grâce à lui, j'ai pu découvrir effectivement que l'oncle de mon père, Hugo, dont je me souviens, il y avait une très jolie photo de lui dans un album photo chez ma grand-mère. C'était un jeune homme très beau, blond, avec une belle tête. Ma grand-mère disait mon pauvre Hugo, le pauvre Hugo, sans dire ce qui lui était arrivé. Et moi, je ne lui posais pas plus de questions. Il a été assassiné. C'était un jeune résistant qui était assassiné devant sa mère. Fusillé devant sa mère, oui.
Et tout le travail de la narratrice, c'est aussi d'enquêter, d'aller dans les archives, où parfois on lui oppose un refus. La narratrice dit il fallait que je trouve les coupables de la peur de mon père. Oui. Et je dirais qu'il y a un point commun entre Max et vous. C'est que Max, il est brocanteur, brocanteur de luxe. Hein. Il cherche quand même les beaux objets, les beaux tapis, un peu comme Gilbert aimera aussi les beaux objets dans l'appartement qu'est de la Tournelle. Vous racontez tout cela. Et vous, vous redonnez un peu signification à l'épargne. Je veux dire, c'est un puzzle familial que vous avez reconstitué. Un peu comme Max accumulait des trésors, si ce n'est que vous, ce sont des trésors familiaux qui vous permettent peut-être aujourd'hui de mieux appréhender votre père, mieux le comprendre et de mieux vivre aussi.
Oui, je dirais chez mon père, chercher le beau. Il aimait les beaux objets comme une sorte d'acte de résistance à la laideur, à ce qui pouvait arriver de catastrophique. Il cherchait une jolie lampe, il cherchait un joli tableau. Et je sais que mon oncle, ça l'a cassé beaucoup. Pierre Paché, il me disait, mais cette... obsession de Gilbert pour les jolies choses, je trouvais ça vraiment ridicule, parce que mon oncle n'était pas du tout comme ça. Et il m'a transmis cette idée-là. Je me souviens que dans ce livre sur ma famille, sur notre famille, Pierre Paché décrit mes grandes tantes. Donc ces tantes qui étaient des femmes qui étaient toujours très élégantes, qui aimaient les jolies choses aussi, qui se maquillaient, qui portaient de jolies robes. Et Pierre a cette phrase que je répète très souvent parce qu'elle est pour moi fondamentale. Elle résume tout ce que je veux faire et peut-être ma manière de vivre parfois. Il écrit: parce qu'elles avaient connu le pire possible, la mélancolie n'était plus de mise. Et je crois qu'il y a cette idée-là que le beau nous sauve. La plainte est interdite, nous sommes ici dans ce joli jardin. Il faut le savoir, le regarder, l'apprécier. Il peut disparaître. Ce jardin, on va le quitter dans quelques heures. Il faut savoir le regarder, oui.
À bord de Wagon Livre, aujourd'hui, votre émission littéraire sur Radion, c'est Colombe Schneck, journaliste et écrivain, qui est devant notre micro pour parler de son dernier roman, Les guerres de mon père, disponible aux éditions Stock.
Voilà qu'on pleure, autour d'une croix, qu'on jette des fleurs, qu'on parle de moi. C'est une belle journée d'été, tout le monde s'est habillé. Les mots qui sortaient, qu'on disait. Le vent les apporte jusqu'à moi. Tout paraît si limpide, si limpide, limpide de l'eau. Qui
Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Les guerres de mon père, c'est le titre du dernier roman de Colombe Schneck qui est aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Colombe, justement, vous parlez de votre père, Gilbert, appelé du contingent, qui a commencé des études de médecine. Et en 1959, il se retrouve à Sétif, en Algérie, alors département français. Il est médecin sous uniforme. Et là, il redécouvre la barbarie. D'un côté, des félagas, de l'autre, celle des militaires français. Et c'est terrible, finalement. Car celui qui fut petit garçon de 11 ans, protégé et caché par des Français résistants en Haute-Garonne sous l'occupation, se retrouve à nouveau dans une situation redoutable et terrible.
Quelque chose de terrifiant de se retrouver dans cette situation pour lui. Il est médecin, il appartient comme officier à l'armée française, et il doit, on lui demande, il n'a pas le choix, ou peut-être qu'il a le choix, mais... il faudrait aussi qu'il fuit. On lui demande de soigner des hommes qui ont été torturés par l'armée française, par son armée, pour pouvoir les présenter aux juges. On lui demande de regarder, de vérifier qu'on puisse continuer à torturer quelqu'un sans le gâcher, sans qu'il meure. Hein. C'est terrible. Il assiste. Il voit des corps qui ont été torturés. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas ? Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un immense gâchis dans cette guerre, dans tous les côtés. On torture des deux côtés. Hein. La torture n'est pas un privilège de l'armée française. On torture du côté algérien aussi. Il n'y a pas d'échappatoire possible au mal, de certaine façon. Le mal est là et on doit le traverser. On doit le traverser en faisant le moins de mal possible. Lui, il soigne. C'est bien.
Et il va quand même trouver un officier supérieur et lui dire « J'ai vu des choses inacceptables, oui. J'ai vu des actes de barbarie. » Et oui. Effectivement, l'officier doute de l'honnêteté.
Il n'a
pas envie d'entendre. Il dit « C'est pas possible, je demanderai au capitaine, mais je n'arrive pas. » Voilà,
il y a circuler. Circuler n'y a rien à voir. On ne veut pas voir, comme dit mon père, on ne veut pas voir les choses qui fâchent. On lui oppose le silence une fois de plus.
Et c'est toujours la difficulté aussi, on revient sur ce thème, de obéir à un ordre injuste. Et d'ailleurs, je cite, « Gilbert était cet homme de cette génération prise dans une histoire où le malheur s'ajoutait au malheur, où la seule position possible était de ne pas faire le mal. Il a donc soigné. »
Oui, il a soigné.
Alors c'est amusant parce qu'il est plutôt à gauche, oui. Et il s'était entiché du programme commun de la gauche. Oui. Et à côté de ça, il part manger des huîtres.
Alors on peut être de gauche et être un bourgeois.
Un épicurien.
Oui, un épicurien. Je pense que c'est pas de contradiction entre ces deux termes. Enfin, j'espère. On peut être de gauche, se vouloir généreux, aider. C'est quelqu'un qui aidait beaucoup. C'était un vrai plaisir pour lui d'aider les autres, de les écouter, de pouvoir les conseiller. Il pensait qu'on pouvait trouver des solutions matérielles aux soucis. Et il avait raison, pas toujours trouver des solutions matérielles, mais on peut souvent pouvoir le faire. Et donc, il était de gauche, oui, donc je ne vois pas de contradiction.
Il aurait aimé, à l'indépendance de l'Algérie, rester comme médecin et pouvoir aider
Pourquoi
les Algériens.
Pourquoi pas ? Il était enthousiaste. Il aimait, il avait cette espèce d'optimisme qui le protégeait du malheur.
Alors, vous a-t-il soigné aussi d'une certaine manière ?
Oui, il m'a soigné et en même temps, enfin, il me soignait. Je me souviens qu'il posait ses mains sur mon ventre quand j'avais mal au ventre. Il était très rassurant. C'était un très bon père. Même si je vois aujourd'hui que je suis enfin adulte face à lui, un autre adulte, qu'il m'a trop pas gâté, qu'il ne m'a pas appris à aimer, il ne m'a pas appris à être aimé, il ne m'a pas appris à affronter la vie. Mais quel père quels parents préparent véritablement leurs enfants à la vie, la vie telle qu'elle est. On n'est jamais préparé au malheur. Quand on a des parents qui vous aiment, on n'est pas préparé au malheur. Oui.
Colombe, vous racontez, alors c'est la narratrice, petite fille, vous avez mâchouillé une tartine et vous voulez partager avec votre papa, donc vous sortez un bout de ce, je ne sais plus si c'est de la tartine ou du
pain au chocolat.
Pain au chocolat, donc mâchouillé, hein, plein de salive, de petite fille gourmande, et vous lui donnez un petit bout de ce pain au chocolat humide et il le mange. Ça m'a beaucoup surpris que vous écriviez cela.
Pourquoi ça vous a surpris?
Je me dis, elle dit tout, elle n'a pas peur de dire les choses. Il y a une sorte d'amour comme ça.
Oui, je pense que c'est un geste d'amour. Il n'y avait pas de limite dans l'amour qu'il portait à ses enfants. Il n'y a pas seulement à ses enfants, d'autres enfants devenus adultes m'ont raconté des relations comme ça avec mon père, où mon père était prêt à aller, effectivement, à avaler leur salive s'il le fallait.
Et votre père, il est prêt, enfin, il a sacrifié sa moustache. J'aimerais
En même temps, c'est terrible.
C'est authentique, ça.
C'est une histoire authentique, oui.
Vous pouvez la raconter.
J'étais enfant, 7-8 ans. J'ai une petite fille assez capricieuse, beaucoup trop aimée. Et mon père rentre dans la cuisine pour le petit déjeuner, je pense. Il a une moustache. Et je lui dis, papa, ta moustache est moche. J'aime pas ta moustache, elle est moche, j'aime pas ta moustache. Et je répète, il quitte la cuisine, il revient 20 minutes après et il s'est rasé la moustache. Et là, j'éclate en sanglots. C'était trop. J'ai trop de pouvoir sur mon père. Mon père m'obéissait, enfant. Et je crois que c'est pas une très bonne chose que votre père vous obéisse.
Et en fait, vous racontez aussi qu'il a acheté un magnifique collier, chose qui n'est pas de la pacotille. Et finalement, il vous l'offre alors que ce collier était prévu
pour ma mère, oui, c'est honteux. C'est honteux, personne ne dit rien. Je récupère ce collier parce que je le veux. Ma mère ne me dit rien. Oui, c'est assez scandaleux. Et d'une certaine façon, j'étais punie de ma... de ses caprices. Mais ce livre m'a permis aussi de percevoir cela et de m'en libérer, oui, de ce trop grand amour.
Ce qui est très touchant aussi, et vous l'écrivez, c'est le respect de votre papa, Gilbert, pour tous les êtres humains dans toutes leurs distinctions sociales ou raciales.
Oui.
Parce que, et vous écrivez, je trouve ça très touchant, il considérait chaque personne, car chaque personne était susceptible de sauver. Et il se rappelait que lui était finalement un survivant de cette période.
Il a été sauvé par de nombreuses personnes, dont Thérèse Moreau, la voisine qui était couturière, par Charles Schmitt, cet instituteur. Même si, disons, il évoluait désormais dans un milieu plus bourgeois, d'intellectuel, de profession libérale, il savait distinguer en chacun peut-être ceux qui étaient capables du plus grand. Et que cela n'avait aucun rapport avec leur classe sociale ou intellectuelle.
Ce que j'ai retenu aussi, je trouve, à mon âge, 47 ans, c'est ce que votre père répétait. Il faut vous créer de bons souvenirs.
Oui.
Et donc effacer, gommer un peu le passé sombre et sinistre.
Le passé sombre était gommé, absolument. Pour créer de bons souvenirs. Ce qu'il faisait souvent, j'ai des souvenirs merveilleux avec mon père. Je crois qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir accepter les deux.
Votre roman résonne tout de même en cette année 2018. Et on terminera avec cela. Parce que, bien sûr, on voit ces enfants juifs cachés. Vos grands-parents ont émigré, sont venus en France. Les barrières de la langue, être acceptés... Et vous l'écrivez vous-même, je peux être mauvaise par indifférence, vous vous sentez mal face aux Syriens ou aux Afghans que vous pouvez voir, ça reste d'une grande actualité.
Bien sûr, mes grands-parents sont arrivés en France en 1922-24, exilés, ils fuyaient la destruction des pogroms, ils sont devenus français en 2 ans, ils ont été acceptés... par la France, l'administration française. Il était très reconnaissant. Je suis d'ailleurs toujours très reconnaissante qu'il soit devenu français aussi vite. Aujourd'hui, malheureusement, ceux qui fuient l'exil, ceux qui fuient, qui sont dans l'exil, ceux qui fuient la destruction, ne sont pas acceptés de la même façon. Et c'est un euphémisme. Et quand je vois effectivement des Syriens, des Afghans, des Soudanais qui fuient des pays en guerre, des viols, des assassinats, qu'ils doivent dormir dans la rue, qu'on leur refuse les papiers, je ne peux pas m'empêcher de penser à mes grands-parents. Je viens de là. Je suis une petite fille d'immigrée. Je suis là aujourd'hui, française. J'écris en français parce qu'un jour, on a ouvert la porte à mes grands-parents et je suis assez triste, même très triste qu'on ne le fasse pas aujourd'hui.
Donc, il ne faut pas forcément parler des choses qui fâchent, sera le mot de la fin. Merci, Colombe Schneck, et
merci,
je recommande Les guerres de mon père de Colombe Schneck aux éditions Stock. Merci, Colombe.
Merci.